Bonjour, aujourd'hui 5 octobre 2004, c'est le 9e jour d'immunité parlementaire pour notre compatriote Charles Pasqua. Tant qu'il est en liberté, nous ne le sommes plus tout à fait. Ne l'oublions pas.
Ouais, bonjour, Philippe Maréchal sur le voilier Akela de la flottille pour sortir du nucléaire. Donc on s'attend aujourd'hui à accueillir les deux cargos Pacific Tel et Pintel chargés de 140 kg de plutonium militaire. Les forces de l'ordre sont impressionnantes à Cherbourg, on envoie des commandos marines, on envoie des zodiacs de partout. Il y a deux jours, Eugène Riguidel, qui fait partie de la flottille, a été arraisonné sur son petit bateau La Rieuse, alors que nous manifestions pacifiquement là, devant, sur le port. Donc avec à son bord John Castle et Pernella Zemberg, ils ont été relâchés 24 heures après. Par contre, le bateau d'Eugène est enfermé dans l'un des ports les plus tristes de France, à savoir l'arsenal de la Marine Nationale à Cherbourg. Voilà, ils ont fermé la Rieuse. Nous, ce soir, on sera là, parce que vraisemblablement, c'est ce soir, il y a un référé d'Areva Kojima visant à restreindre encore plus le droit à manifester pour tout citoyen, avec des sommes exorbitantes à la clé pour tous ceux qui oseraient lever le petit doigt. Voilà, bah, je vous demande soutien, je vous demande d'être là. On sera probablement 8 petits bateaux, 7 ou 8 petits bateaux, à dire non, à faire acte de vigilance citoyenne par rapport à cette monstruosité qui est transportée des choses aussi dangereuses pour l'humanité que ce plutonium. Voilà, on dit non, on ne veut pas. On demande une discussion de façon digne et non violente. On sera là, présent et déterminé face à tous ceux vraisemblablement qui seront sûrement très agressifs, au dire des gendarmes qui m'ont rencontré il y a quelques jours. Voilà, je ne sais pas si c'est une intimidation ou quoi que ce soit, mais vraisemblablement, ça ne sera pas facile. Mais on sera là quand même, on sera là pour tous. Voilà, bah, je vous remercie. Le nucléaire, c'est bien une société policière. C'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Voilà, donc mon téléphone, c'est 06 76 21 95 23 pour tous ceux que cette histoire intéresse. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, lundi 4 octobre, il y a des chances que l'équipe Amirmé reçoive l'équipe du monde diplomatique, qui n'empêche que comme tous les lundis, on sera à 19h devant la gare de Saint-Raphaël pour apporter un peu de temps, un peu de réconfort et le minimum nécessaire aux gens qui couchent déjà dans la rue. On a beau être sur la Côte d'Azur, il fait beau dans la journée, il fait froid dans la nuit et il y a des gens qui sont à la rue. Alors pensez à Papate, Lulu et Patricia. Et mardi 5 octobre, il y a une soirée de soutien au Diable Bleu à Nice. Et samedi 9 et dimanche 10, il y a deux jours de soutien. Ce sera le premier jour où les Diables Bleus sont expulsables par la force publique. Ciao, vive, portez-vous bien, belle émission, régalez-vous.
On a beaucoup d'autres messages reçus aujourd'hui, mais on va vite partir vers Marseille. Auparavant, je rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37 en voiture.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons à Marseille-Saint-Charles. Marseille-Saint-Charles, terminus de ce TGV. En espérant que vous avez effectué un bon voyage, nous vous souhaitons une bonne journée. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert. Là-bas, c'est fort en chocolat.
Flight number 2, arriving from New York.
On est à la foire de Marseille pour pouvoir rencontrer Monsieur Godet, avoir un passe-en-passe et lui dire qu'il organise une table ronde. Parce qu'on s'est déjà rencontré avec Monsieur Godin, c'est que des promesses.
Monsieur Godin, c'est le maire de Marseille.
Le maire de Marseille, Monsieur Godin, le maire de Marseille, on a rencontré le préfet de région. Toujours pareil, hein, c'est que des blablabla. Oui, bon, on va avoir une table ronde, mais là, ça fait pratiquement 5 mois que nous annonçons la fermeture, et il n'y a toujours rien eu. Mais ce qu'il faut, ce qu'on veut, nous, c'est ce qu'on se passe à entendre. Voilà. Et qu'ils disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils nous disent exactement, ce qu'ils comptent faire de Nestlé. Voilà, qu'ils nous disent où qui peut rien faire. Tant que les politiques n'arrêteront pas ça, on ne pourra rien faire parce que c'est la faute des politiques. Pour moi, en fin de compte, maintenant, c'est plus la faute aux patrons. On sait comment ils sont les patrons. Il n'y a que le bénéfice, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais tant que l'État ne mettra pas le haut là, ils feront ce qu'ils voudront. Et nous, malheureusement, ça sera encore nous, les petits gens, les ouvriers, qui morfleront.
Oh, que c'est pas beau!
Mais sortez l'emploi! Sortez le préfet!
Les gens au chômage, oh, que c'est pas beau! Rien de triste personnage, je partage le fromage, oh,
Des tables rondes,
des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes.
Ça aurait pu être en 1992. Exactement les mêmes slogans, exactement les mêmes mots, exactement la même rage, exactement la même histoire. En 1992, on avait fait un reportage à la BAP à Dijon. C'était une fermeture, c'était un plan social et on avait appelé ça le combat des voraces contre les coriaces. Et puis, il y avait un des deux mots qui était trop optimiste, évidemment, c'était le second. Les coriaces n'ont pas été aussi coriaces et les voraces sont avancés. Depuis, fermeture et plans sociaux sont devenus d'une telle banalité que c'est des nouvelles qu'on relègue au fin fond des médias. Ça n'intéresse plus personne, sauf, en l'occurrence, ici, à Saint-Monnet, près de Marseille, 427 personnes qui vont être virées, qui sont virées déjà, ou à peu près, qui espèrent encore, qui s'accrochent. 427 plus tous les sous-traitants, au total, c'est 800 familles qui sont concernées par cette fermeture de cette usine Nestlé. Nestlé, premier groupe mondial agroalimentaire, ferme, ouvre, délocalise, enfin vit sa vie d'entreprise d'aujourd'hui. Ça ne fait pas que des mécontents, il faut quand même rappeler que les actionnaires de Nestlé sont des gens tout à fait heureux qui voient leurs dividendes augmenter et de ce côté-là, les nouvelles sont bonnes. Du côté où nous sommes, c'est-à-dire du côté des coriaces, eh ben, les nouvelles sont beaucoup moins bonnes. Ce qui nous a intéressé avec Olivia, c'est de revenir sur le vécu, vraiment le vécu, de ces plans sociaux. Vous allez dire, mais oui, on connaît déjà. Attendez. Revenons sur les mots. Bien sûr, il y aura des indemnités, il y aura des repas, des départs à la retraite, il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à dire ce qu'est profondément cette mutation. Nous vivons une mutation considérable actuellement dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, dans tout un tas de pays comparables, celle de la destruction du travail, celle de la destruction des acquis sociaux, celle de la destruction de lutte et de la destruction d'une culture d'hommes et de femmes, parfois encore quelque part coriace.
Oh, le préfet, on sait qu'il est ! Sortez le préfet ! Oh, le courage !
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissants de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Et quand vos fonds seront épuisés, que la grogne sociale se fera entendre, vous n'aurez qu'à demander au gouvernement d'alors quelles mesures il comptera prendre. Libre à vous d'accepter notre plan de reclassement. Vos familles, amis, projets, tout quittez définitivement. Laissez vos terres et vos racines, respirez l'air de nos usines. Si toutefois adoptiez la moindre attitude subversive, vous ne trouveriez à votre état plus aucune alternative. Sachez que notre groupe possède de nombreux médias et qu'il existe des cibles. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
Je m'appelle José Gomez, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Non, vous pouvez rester. Hein.
Vous
pouvez tout rester, ça ne me gêne pas.
Alors,
je travaille à Nestlé depuis 4 ans, je suis machiniste au pliage, on va dire. J'emballe les tablettes, si vous voulez, en gros. Je conduis une ligne qui conditionne les tablettes. Je suis rentré en intérim, j'ai fait 2 ans d'intérim. Et c'est sûr, c'était un honneur de travailler pour Nestlé, quoi. C'est un grand groupe, quoi, à l'époque. C'est toujours d'ailleurs un grand groupe. C'est. Comment dire. Bon, je connaissais aussi Nestlé quand j'étais gosse parce qu'on l'a visité dans la région, tout ce qui est la région de Marseille. Ça fait toujours plaisir. C'est mieux que d'aller visiter le chocolat qu'il est en cours.
Le président, c'est bébé. C'était la devise de Nestlé autrefois. Le président, c'est bébé. Et on a tous en mémoire, effectivement, la sortie scolaire dans l'usine de chocolat, la grande journée, et l'écœurement à la fin de la journée. Ben là, c'est un peu pareil. C'est un écœurement. José Gomez, 34 ans, il représente assez bien et sa génération de travailleurs et le profil des gens qui sont encore dans cette usine de Saint-Menet, c'est à côté de Marseille, dans la vallée de l'Uvaune, c'est une vallée industrielle, et ça, et là, il y a une odeur effectivement de chocolat qui flotte ou de café. C'est Nestlé, c'est une belle usine. Il dit bien l'honneur de travailler. Hein, oui, il y a cette fierté, il y a cet attachement, on l'a vu très souvent, cet attachement à l'entreprise, cette identification à l'entreprise, et non pas comme certains le voudraient encore et en longtemps rêvé d'une opposition radicale à l'intérieur de l'entreprise, tous ceux qui projettent, qui font la révolution pour les autres et qui voudraient qu'il y ait une lutte incessante à l'intérieur de l'entreprise. Oui, bien sûr, il y a des luttes de domination, mais il y a aussi quelque chose qui se partage en commun, qui est cet honneur, cette identification à un grand groupe, à un grand groupe. Et en être exclu, s'en aller, devoir s'en aller, être viré, ça se passe par là aussi, par cet honneur perdu, par cette humiliation. José Gomez.
On en a toujours entendu parler que Nestlé allait mal, même étant jeune. Oh, ça n'a pas pour longtemps, dans 3 ans, il ferme, dans 5 ans. Mais bon, jamais n'aurait pensé que Nestlé fermait une usine, quand même. Surtout en France. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont mis. C'est la fleur de la... J'ai dit ça, ma fille. Non? Je fais pas de politique, mais je trouve qu'en France, on est en train de perdre beaucoup d'acquis sociaux. On travaille le samedi, dimanche, ça devient normal. Tu perds le lundi de Pentecôte, c'est normal. Or, que nos parents, nous, se sont battus pour avoir des acquis, on est en train de tout perdre. Moi, j'ai mon père, il a fait 10 ans de Légion étrangère pour devenir français. Je veux dire, il a pas fait 10 ans de Club Med. Hein. Je suis français, je suis fier d'être français. Et bon, faut que quand même, on continue à garder nos acquis, quoi. Et que...
Il vient d'où, votre père?
Mon père est espagnol, il vient du Maroc, parce que sa famille a immigré elle-même de l'Espagne sous le régime de Franco au Maroc. Il est né au Maroc, mais c'est des Espagnols.
Et après, il s'est installé à Marseille.
Après, ouais, à 14 ans, il est venu à Marseille, très jeune. À 18 ans, il s'est engagé dans la Légion étrangère et il a fait pratiquement 10 ans de Légion étrangère pour devenir français. Ah non, il n'était pas dans le chocolat, non, il était dans l'armée, dans la Légion. Non, après l'avoir roulé.
D'où les cheveux courts, on a gardé ça?
Non, c'est que moi, ça me va bien maintenant parce que j'ai plus de cheveux. C'est les soucis. Pareil que c'est les gosses. Que maintenant, c'est pour mes enfants surtout que je crois que j'ai l'impression de me battre. Parce que bon, moi, 34 ans, je me sens encore de me battre au travail ailleurs. J'ai 35 ans, n'importe quoi à la limite, parce que moi, il faut que j'assume mes enfants, j'ai deux gosses. Quoi qu'il en soit, il faut que je les assume. Il faut assumer, tu vas travailler. Tu ramènes la gamelle à la maison, comme on dit. Voilà.
Oui, c'est Chantal, oui. Mon père, il est rentré en 1950 pour la construction justement de cette usine. Il était manœuvre maçon. L'usine, elle a démarré en 52 et il a travaillé pendant 40 ans dans cette usine. Après, il y a eu ma mère, elle est rentrée en 1961 parce qu'on était quatre enfants, dont la vie était difficile. Et ça fait que par la suite, ma sœur, elle est rentrée justement après ses études en 1966. Mais elle est montée dans les bureaux administratifs grâce à mon père qui s'est bagarré pour qu'elle puisse travailler dans les bureaux. Et puis moi. Et ensuite, j'ai eu mon frère, dont lui c'était l'aîné. Il a travaillé pendant 20-25 ans au chantier naval. Et après la fermeture, il a travaillé ici à Nestlé sous-traitance comme chaudronnier.
Et voilà, c'était ça, la fierté, le sens de la vie, montée dans les bureaux. La sœur, elle était montée dans les bureaux grâce au père. Elle n'était pas montée dans les bureaux toute seule, elle était montée grâce au père, grâce au travail du père. Voilà ce que c'est, la fin, la fermeture d'une entreprise comme celle-là, c'est la fin et la trahison de cette histoire-là, la négation de cette histoire et de cette mémoire aujourd'hui. José González, 34 ans aujourd'hui, Chantal, la mémoire, l'histoire, la perspective de cette entreprise.
Ce terrain, à l'époque, j'habitais à la Midière. C'est juste en face de l'usine. Donc, c'est dans le 11e. Et mon père, à l'époque, avec ma mère, étant donné qu'on habitait à la Midière, c'était un grand pré. Et je crois que ça s'appelait, ça appartenait au château de la Busine. Donc, on y venait se promener. Et après, c'est là que mon père, étant donné qu'il était le docker à Marseille, qu'il a entendu qu'il y avait une construction d'usine, c'est là qu'après il a fait sa demande. Mais voir cette usine, c'est un symbole, parce que mon père, il me disait toujours, on l'a monté, j'étais manœuvre maçon, mais après il a travaillé, nous, on a travaillé. Ben, mon père, quand il parlait de cette usine, il était content parce qu'il travaillait, il gagnait un salaire. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours connu, je me rappelle, on était quatre enfants, on vivait six dans deux pièces. C'est vrai qu'il travaillait, mais il a eu des moments durs parce que maintenant c'est vrai que par la modernisation et tout, on a des contraintes, mais c'est pas l'effort physique qu'il faisait avant. Moi je me rappelle mon père, il rentrait, avant c'était le travail dur et il tenait pas debout quoi. Ça a changé maintenant, c'est tout le dans la tête, c'est stressant. C'est vrai que moi, je me rappelle à l'époque, on riait plus souvent, on plaisantait. Mais là, c'est tellement stressant. Si vous voulez, vous avez des postes isolés. Vous êtes devant votre machine et il faut continuer, il faut aller. Il faut que ça produise.
Double jeu. Signe Nestlé.
On est dans un bel immeuble des Champs-Élysées. Hein.
Ah là, vous voyez, hein. On sent qu'on est chez les avocats des employeurs. Il y a beaucoup d'argent.
Qu'est-ce que c'est ? Quatrième, hein.
Jean-Pierre Riboud, délégué syndical central de la CGT Nestlé France et secrétaire du comité central d'entreprise.
Philippe Créneau, délégué syndical central FO de Nestlé France SAS.
Il est 17h, on est sorti de la réunion de conciliation. L'idée, c'est peut-être de revenir sur ce qui s'est passé en mai 2004, d'abord. Pour Saint-Menet, tout commence là, où il y avait déjà des antécédents.
Il y avait déjà des antécédents, bien évidemment, puisque l'usine de Saint-Menet comportait jusqu'à 1300 personnes dans les années 80. Et donc, elle est réduite aujourd'hui à 430 personnes. Donc, vous pensez bien qu'il y a eu un certain nombre de plans sociaux sur l'usine de Saint-Menet tout au long de ces dernières années. Alors, cette annonce de fermeture n'est pas la première dans le groupe Nestlé France. Je rappelle que depuis les années 90, on a vécu déjà sur l'usine qui est en Savoie, à Rumilly, des licenciements secs. On a eu ensuite une usine laitière sur 40 ans dans la Manche qui a fermé en 95. Nous avons eu l'usine de Marconnel, toujours dans la zone, dans la partie laitière, donc dans l'Aisne, qui a été fermée au mois de mai, dans le Pas-de-Calais, pardon. Et aujourd'hui, nous avons donc l'annonce de Saint-Monnet. Donc voilà un petit peu sur la situation de l'emploi, c'est-à-dire des plans sociaux pratiquement maintenant tous les ans, avec des fermetures, voire des cessions d'activité partielles ou complètes. Voilà où nous en sommes au jour d'aujourd'hui.
Alors des plans sociaux, hein, vous avez bien entendu, il s'agit de plans sociaux. Si vous êtes actionnaire, vous souriez, parce que vous en foutez complètement. Évidemment, vous n'êtes pas en train d'écouter des choses pareilles, vous n'êtes pas en train d'écouter les propos de ces syndicalistes, Jean-Pierre Ribou de la CGT et Jean-Philippe Créneau de EFO. Voilà, ça c'est un autre langage, évidemment, c'est celui des responsables syndicaux. Les salariés, de Nestlé à Saint-Menet, savent-ils qu'ils sont des targets? Des targets, oui, c'est des targets. Enfin, ils font partie d'un plan target, mais aussi, consolation, d'un plan globe.
J'imagine que si je vous dis globe ou target 2004, c'est peut-être deux mots qui irritent un peu vos tympans.
Bah écoutez, en ce qui concerne Target 2004, on est en 2004 déjà, donc Target c'est aussi une cible. Eh bien Saint-Monnet en est une illustration. Target 2004, c'est effectivement un projet industriel, un projet pour redimensionner à la fois et les usines, voire pour en faire disparaître un certain nombre. Quant au projet globe, bah le projet en lui-même, au globe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est un acte mondial, c'est un acte de gestion mondiale où l'entreprise va être vue davantage, non pas marché par marché, comme je le disais tout à l'heure, mais va être vue avec une vision, disons, unique au profit de recentrage. Il doit y avoir 7 ou 8 marques mondiales sur lesquelles Nestlé, 6 marques mondiales sur lesquelles Nestlé entend faire des investissements à l'échelle du monde.
C'est ça en fait Globe, c'est de pouvoir reproduire un produit qui pourrait être l'originalité d'une région quelque part dans le monde et dire de cette région, moi je vais à l'autre bout de la planète et en quelques minutes j'ai tous les procédés de fabrication avec tous les cahiers des charges que Nestlé aura adressés par rapport à ce produit. Donc c'est de reproduire où que vous soyez sur la planète le produit. Et c'est ça l'espèce de flexibilité de Nestlé, c'est-à-dire, en deux mots, il faut être clair, chez Nestlé actuellement, en France, c'est pas la santé ni la forme. Et je vais vous dire, les salariés, je vais être un peu brut, ont le moral dans les godasses.
Nestlé, c'est fort en chocolat.
Vous êtes Patrick
Candela.
Responsable notamment CGT.
Je suis délégué syndical CGT.
Et aussi ouvrier dans l'usine.
Je suis ouvrier machiniste au chocolat depuis 1982.
Voilà, depuis 1982, il est là, Patrick Candela, et il a observé beaucoup de choses. La lutte syndicale, c'est pas seulement des tracts, ça peut être aussi d'étudier, de comprendre, d'analyser ce qui se passe dans une entreprise et d'être et de nous donner une sociologie de cette entreprise. Et c'est d'une manière extrêmement fine et néanmoins engagée.
L'usine Nestlé de Marseille est une usine qui date d'abord des années 50. Et c'est vrai que sociologiquement, on peut pas considérer que c'était une usine qu'on qualifierait de bastion de la lutte ouvrière ou de c'est une entreprise de l'agroalimentaire, mais tranquille quoi, assez paternaliste d'ailleurs, avec des organisations syndicales qui jouaient bien le jeu avec la direction de Nestlé. Et ça a duré jusque dans les années 68. Quand Nestlé installe son usine à Marseille, elle ne s'adressait pas à la NPE, mais chez le curé des paroisses des villages environnants. C'est pour ça que apparaît en premier lieu à Nestlé des salariés qui se retrouvent, je veux dire, même du point de vue des idées et de leur culture, on peut le dire, proches de syndicats comme la CFTC. Ça apparaît jusqu'en 68, où avec l'arrivée de plus en plus importante de salariés de la métallurgie qui sont déjà syndiqués à la CGT, commence à se créer un syndicat CGT, puis 68 évidemment est une période qui va faire basculer les choses jusque dans les années 80 où là la CGT prend toute sa place et devient majoritaire.
Avec l'arrivée d'ouvriers de plus en plus qualifiés.
Avec l'arrivée d'ouvriers plus qualifiés, de techniciens qui ne sont pas dans le même schéma de pensée que ces salariés agricoles, que ces anciens paysans qui à la fois travaillaient à Nestlé et à la fois cultivaient leurs champs, mais on se retrouve vers une nouvelle génération qui s'engage beaucoup plus dans le cadre du salariat tel qu'on le connaît en général que vers ces anciens salariés.
Pendant ces années, avant les années 80, cette culture paternaliste, elle se traduisait par quoi ?
Ben, elle se traduit. D'abord, c'est dans la politique de Nestlé. À Nestlé, nous sommes tous des vecteurs de la politique de Nestlé. Nous sommes tous des représentants. Mais c'est écrit, hein. Je veux dire, Peter Brabeck, le PDG de Nestlé à l'échelle internationale, quand il s'adresse à ses salariés, il leur demande à la fois d'être des producteurs, c'est-à-dire des travailleurs, des salariés qui produisent, mais des représentants de l'image Nestlé, des représentants de la politique de Nestlé, des militants de Nestlé. Donc on a tous intérêt à défendre l'image de marque de Nestlé, les produits Nestlé. Une anecdote, si vous travaillez à Nestlé, vous devez boire du Perrier ou du Vittel. Si vous rentrez dans un atelier avec une bouteille d'eau minérale Evian ou d'autres marques qui n'appartiennent pas au groupe Nestlé, vous êtes un traître. C'est évident. Si vous rentrez à Nestlé, vous êtes salarié de Nestlé, vous rentrez avec une tablette Lindt ou Côte d'Or, vous êtes un traître. C'est à ce niveau-là l'état d'esprit Nestlé. Et ça a fonctionné. Pendant une période, c'était, je veux dire, l'esprit paternaliste où le patron, y compris le directeur de l'usine, descendait dans les ateliers, tapait sur l'épaule du salarié. Ça a marché jusque dans les années 80. Mais à un moment donné, il y a un changement. Et Peter Brabeck, le PDG de la multinationale, avoue lui-même qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. L'amitié, ça se paye, quoi, je veux dire. Et Nestlé ne veut plus avoir d'amis dans ses usines. On est en train de rentrer dans une période en France et dans le monde où Nestlé se conduit comme tout patron doit se conduire avec les gens qu'il exploite. C'est pour ça que, y compris quand on annonce la fermeture de l'usine de Marseille, on est là devant le vrai visage d'une entreprise capitaliste qui traite les problèmes sociaux de cette manière-là, c'est-à-dire en fermant une usine qui, d'après eux, ne leur rapporte pas suffisamment.
Et c'est justement aussi via ce mode un peu paternaliste que vous êtes entré chez Nestlé, hein.
Je suis un exemple parmi tant d'autres, quand même, d'un enfant de salarié de Nestlé. Tout à l'heure, en discussion comme ça, on parlait, mais depuis quand tu es en relation avec Nestlé ou depuis quand a débuté ta relation avec Nestlé? À 7 ans, je faisais les colonies Nestlé. Et à 7 ans, quand j'étais un colon des colonies Nestlé, je chantais avec les enfants d'ouvriers de chez Nestlé en colonie de vacances, je suis un bébé Nestlé. Alors j'étais un bébé Nestlé puisque mon père était un salarié Nestlé, je suis devenu un exploité Nestlé et aujourd'hui je suis un licencié de chez Nestlé. Mais ma relation avec Nestlé, c'est ça. Je trimballe, il y aurait beaucoup de choses à dire, je trimballe l'image d'un père qui rentrait le matin à 5 heures du matin. Je me réveillais rassuré de le voir rentrer, d'avoir fait la nuit. Je suis un salarié fier d'avoir côtoyé mon père et le voir travailler puisqu'il était métallurgiste et créer de ses mains des choses formidables. Et je suis aussi un salarié qui a grandi dans l'éducation avec toujours Nestlé là. C'est pas évident, je veux dire, de s'en défaire. D'autres générations, les derniers embauchés, ne vivent pas de manière aussi affective l'affaire que nous vivons, que nous subissons. Mais quand même, en règle générale, nous sommes à la fois très marqués, très attachés à Nestlé, mais à la fois, parce que ça doit être très clair, très émancipés de la supercherie que recouvre le slogan selon lequel Nestlé, le président, c'est bébé, parce que ce n'est pas vrai du tout.
Je t'avais prévenu, Maurice. C'est vrai, il devait pas toucher aux vieilles noix, mais il a aucune volonté. Il y a vachement plus de crème fouettée, alors évidemment.
Moi aussi, il n'a pas pu résister.
C'est vrai. Il n'a pas pu résister.
Le viennois de Nestlé, nouvelle recette. Du chocolat délicieusement fondant et 25% de crème fouettée en plus.
Je suis bien gentil avec toi, et là c'est la pension. T'as dépassé les bornes des limites. Non mais oh.
Bah tiens.
Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que nous ne sommes plus les meilleurs collaborateurs pour la société, et en quelque sorte, parce que nous ne sommes plus les meilleurs collaborateurs dans la société, nous ne pouvons plus rester dans le cadre de la société Nestlé. Et ça, ça entraîne chez les gens un certain nombre de ressentis qui poussent à les culpabiliser. Par exemple, il y a 2 ans, on nous a proposé de changer notre horaire de travail de manière à travailler les week-ends, à travailler les samedis après-midi, à faire ce qu'on appelait un horaire en continu. Les salariés ont refusé. Et aujourd'hui, on leur dit, vous n'avez pas fait tous les efforts qu'on vous a demandé de faire. D'autres usines en Europe et dans le monde le font. Vous refusez, par conséquent, on ferme. Il y a un chantage permanent qui est fait.
Les tables rondes, ils réclament des tables rondes. Ils réclament des contacts, ils réclament des entrevues, ils réclament du dialogue. Ce sont les salariés de l'usine Nestlé à Saint-Menet, près de Marseille, qui sont plus que menacés de licenciement. Ils sont 424. Patrick Candela, qu'on écoutait à l'instant, responsable CGT, après 20 ans dans cette usine, gagne environ 1500 euros bruts par mois. On commençait comme salaire de départ dans cette entreprise à 1200 euros. Voilà quelqu'un qui est un peu au-dessus de ça. C'est un agent de maîtrise, c'est un cadre. C'est Michel Rossi qui est syndicaliste CGC, son point de vue.
Donc Michel Rossi, je suis DSC, CFE-CGC, Nestlé France. J'ai une double casquette, syndicale et au niveau donc de la société. Donc moi, ça fait 25 ans que j'étais embauché dans cette usine. Alors j'y suis arrivé, je dirais, par la petite porte ou grande porte, peu importe. Hein, c'est juste une annonce qui était parue dans la province. J'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, un monde vraiment, vraiment à part. C'est-à-dire que les gens qui y étaient à l'époque étaient étaient paternalistes. Et on avait des relations de travail qui étaient vraiment de l'affectif, hein, et du lien presque, je dirais, père-enfant, quoi. Alors, la conséquence de cela, c'est que lorsqu'il y avait un pépin, l'ensemble des salariés, encadrement et même personnel ouvrier, étaient présents. Alors, le patron passait tous les matins dans les ateliers, saluait donc tout son personnel, avait toujours un petit mot gentil pour tout le monde. Et il connaissait ses collaborateurs. Et quoi qu'on avait, on s'asseyait et puis on pouvait discuter.
Du coup, on était disponible à toute heure, on donnait vraiment sa vie aussi à l'entreprise, non?
C'était une conséquence, mais je crois que c'était pas fait, le paternalisme n'avait pas été institué dans ce but-là. C'était plutôt une conséquence.
Pourquoi, à votre avis, un jour, on a cassé ce système, notamment en arrêtant d'embaucher les fils d'eux, le frère, la sœur ou...
Il y a eu l'automatisation, il y a eu la robotisation et il y a eu l'informatisation. Je prenais qu'un exemple, c'est que moi, donc, en tant que responsable d'un service, avant, j'avais ma secrétaire. Parce qu'on n'est pas, à la boîte rectangulaire sur laquelle on tape, là. Donc, on est obligé de passer par un secrétariat, quel qu'il soit, quoi. Et puis, maintenant, on se trouve seul en face, un écran, et vous dialoguez avec un écran. Alors qu'avant, je dirais, vous étiez obligé de dialoguer avec votre secrétaire. Je crois que l'informatisation est la principale cause de ce retour en arrière. Moi, j'appelle ça un retour en arrière, hein, parce que c'est vrai qu'informatiquement, et d'ailleurs, il y a qu'à voir, hein, si on dérape un petit peu, nos jeunes surfaient sur Internet, hein, ils surfent, je dirais, eux et leur micro, quoi. Quand on a un message à faire passer, on fait ce qu'on appelle, on envoie un mail. Hein, on envoie un mail. On a donc une boîte d'adresse, et puis on dit, est-ce que vous pourriez venir me voir, par exemple, pour vous envoyer, quoi. C'est ça. Alors qu'avant, on allait voir la personne, est-ce qu'on pourrait se voir? Et je crois que ça, malheureusement, ça nous apporte l'individualisme qui n'avait pas lieu d'être auparavant.
Certains sous-traitants qu'on a essayé de contacter ou que j'ai essayé par votre intermédiaire de contacter n'ont pas très envie de parler de tout ça. On a l'impression qu'il y a un abattement un peu en ce moment. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que vous comprenez pourquoi?
Ce que je dis à tout le monde et ce que je ne souhaite pas à personne, c'est d'avoir vécu la journée du 12 mai. Où là, on a vraiment vu l'ensemble des salariés qui ne s'est même plus abattu. Quoi, je veux dire, c'était vraiment en détresse. Depuis, donc nous sommes dans le 5e mois, la détresse est moins palpable, c'est d'autant plus grave. Mais elle est plus interne. Et les gens sont résignés. Hein. On voyait un petit peu dans quelle situation Nestlé met ses salariés. Il y a une grande différence. À partir du moment où vous quittiez votre société en vous disant, bon, bah, l'usine continue à tourner, j'ai bossé pour qu'elle continue à tourner. Et le jour où on doit quitter son bureau, son usine, et que quand vous fermez la porte, vous dites, eh ben, derrière, il n'y a plus rien. Moi, dans mon cas particulier, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le vivre. En me disant, j'ai échoué dans ma vie professionnelle, puisque je ne suis pas arrivé, de par mon action de tous les jours, à assurer la pérennité de ce site. Et je crois que ça, c'est un échec professionnel qu'il faudra que j'assume, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est le sentiment de gâchis qui va très certainement prédominer.
Mais au fond, combien sont-ils dans ce pays à parler comme Michel Rossi, c'est-à-dire les victimes, ça c'est des vraies victimes, de ces plans sociaux et de cette destruction du travail. Je me souviens de l'historien britannique Eric Hobsbawm, l'auteur du formidable Siècle des extrêmes, une histoire du XXe siècle. Et avec un titre comme celui-là, Siècle des extrêmes, le XXe siècle, en demandant à Eric Hobsbawm ce qui pour lui était le plus important dans ce siècle, on s'attendait à ce qu'il dise la Shoah, ou qu'il dise le Goulag, l'Empire soviétique. Eh ben pas du tout. La première chose la plus importante à ses yeux bien sûr, c'était la disparition du monde paysan. Eh bien, il se pourrait bien que nous soyons en train de vivre la destruction du travail, et que ce soit aussi important. Important pour l'avenir, évidemment. C'est-à-dire que des gens comme ceux que nous entendons là, combien sont-ils de centaines de milliers en France? Combien, qu'est-ce que ça fait une société? Ces gens qui partout, à travers ce pays, vivent cet échec. Cet échec personnel, cet échec intime, cet échec dans leur chair, dans leur âme, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de l'avenir. Etc. Qu'est-ce que ça fait à long terme dans une société comme la nôtre ou dans celle qui nous ressemble? Attendons, on verra. En attendant, les coriaces, il en reste quand même, sont à la foire de Marseille et attendent les autorités.
Du mépris. Comment vous voulez comprendre le peuple?
À quel âge vous avez commencé à travailler, madame?
J'ai commencé, j'avais 16 ans.
Moi, j'avais 13 ans que j'ai commencé à travailler. 13 ans.
C'est pas 16.
13 ans. Alors, écoutez, le peuple, vous le gardez pour vous, je le connais aussi bien que vous.
Oui, bah, bon, il faut peut-être agir.
À 45 ans, on m'empêche de travailler, à moi.
Il faudrait peut-être agir.
Bon, alors maintenant,
je n'accepte pas le plan social. On est en train de discuter. Je vais vous réunir. Si vous voulez, on peut se voir dès la semaine prochaine. Je vais vous expliquer ce qu'on fait.
Bon,
on va mettre en place un dispositif pour essayer de retrouver une activité. Bon, c'est pas facile, et vous le savez bien, il n'y a pas de miracle, c'est pas facile. Mais on y travaille, on vous laisse pas tomber.
Moi, le préfet, monsieur Frémont.
Pas tomber. Là, moi, j'aurais pu me mettre derrière les policiers, les CRS, et vous laisser crier. Je suis venu vous voir pour vous le dire, ça, parce que c'est encore le plus simple. Nestlé, table ronde. La seule chose que je l'aurais déjà faite à table ronde. Je ne l'ai pas faite parce que c'est pour des raisons juridiques. Parce qu'il ne fallait pas troubler la procédure. Mais la table ronde, j'ai commencé à prendre rendez-vous pour une date pour cette table ronde. Donc, on devait la faire aujourd'hui, la table ronde. S'il n'y avait pas eu la foi, j'ai pas beaucoup de trous dans mon emploi du temps, mais on avait prévu aujourd'hui.
Oui, monsieur Frémont.
Mais on va vous la...
N'oubliez pas quand même qu'il y a 424 familles, je veux dire, qui sont considérées, je veux dire, comme à la rue, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus attendre. Et je crois qu'à un certain moment, vous êtes un responsable de l'État, et votre responsable de l'État, c'est quand même de considérer les citoyens.
Mais moi,
les citoyens, nous sommes des citoyens.
Mais moi,
Et je pense que vous avez tout intérêt à faire au maximum et le plus vite rapidement possible cette table ronde pour arrêter, je veux dire, la machine Nestlé de sacrifier, je veux dire, les familles.
On négocie, on n'accepte pas. Hein. Ce n'est pas parce que je ne fais pas une déclaration tous les matins à la presse qu'on ne fait rien. Hein. Peut-être le tort que j'ai eu, c'est de ne pas vous voir assez.
Monsieur Frémont, on vous a envoyé plusieurs courriers.
Oui, tout à fait.
Nous avons été recommandés, nous n'avons eu aucune réponse. Je pense que vous avez des collaborateurs qui peuvent nous répondre.
Non, attendez, ce ne sont pas mes collaborateurs qui vous répondront, c'est moi. Mais je pourrais vous parler tous les matins. Tant que je n'ai rien de concret à vous dire, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être, à vous soutenir moralement, mais maintenant, il y a des
des choses, je vais, cette table ronde, je vous dis, on a trouvé, on court après la date depuis deux semaines. On va trouver une date, et rapidement.
Les salariés de Saint-Menis ne veulent plus que vous couriez, il faut leur donner une réponse définitive
d'accord.
pour que l'on ait une table ronde
pour qu'on puisse discuter. Lundi matin, je vous donne une date. Je vais travailler sur le calendrier pendant le week-end. Lundi matin, je vous donne une date de table ronde. Je vais vous raconter tout ça. Je vais vous dire aussi ce qu'on met en place pour essayer de redonner vie à tout ce qu'on peut, trouver des emplois, trouver revitaliser. Là aussi, on avait trouvé une date, et puis ça l'a sauté pour je sais pas quoi. Je vous promets aux uns et aux autres que lundi, je vous donne une date rapprochée pour qu'on se voit. Et pour qu'on fasse le point.
Vous dites que vous avez souvent contact avec Nicolas Sarkozy. Oui. Alors vous lui direz
hier,
que les salariés sont très en colère parce qu'il a fait des lettres de
menace.
Il n'a pas tenu compte.
Il a rien tenu compte.
Les promesses et compagnie, on en a ras le bol. On a des enfants, on a des vies de famille.
Actuellement, vous savez quel est ce que me dit M. Sarkozy. Il me dit j'ai pris des promesses, il faut les tenir.
Pour les patrons, c'est les promesses.
S'il suffisait de claquer dans les doigts pour que ça marche, ça serait facile de se dire que c'est pas vrai.
Hein. Vous vouliez voir le maire, vous avez vu le préfet?
Oui. Bah déjà, c'est déjà important. Déjà. Enfin, on a encore peur que ce soit que des effets d'annonce. Parce que c'est vrai qu'il nous balade depuis pratiquement 3 mois maintenant. Il doit nous faire une table ronde. Et là, aujourd'hui, il nous précise qu'on aurait dû faire une table ronde aujourd'hui. Alors qu'il pouvait. Mais par contre, il pouvait pas, parce que comme c'était l'ouverture de la foire, donc il a dit j'étais obligé de la reculer. Mais après, bon, on verra au fur et à mesure que ça ira. Mais on ira rechercher de toute manière cette table ronde de là où il faut.
Alors, profite de toi, qu'on est sur la foire. Il dit, vas-y, touche-moi. Il dit, je suis venu armé, te vois. Il me dit, ouais, je suis avec toi, mais il faut se calmer. J'ai dit, comment tu te calmes? Je vais être au chômage, il veut pas m'écouter, je vais te calmer.
C'est de la haine maintenant.
Parce que nos représentants, même pas un regard, ils envoyaient vers la population, vers les salariés, pas un regard. Ils ont été plus sensibles, les gardes du corps, que le maire de Marseille.
Comme du bétail.
Après, il dit, j'aime Marseille. Il aime l'argent et le pouvoir, c'est tout ce qu'il aime.
Il faut bien se mettre dans la tête que le terrain de où on travaille, il doit déjà avoir l'argent dans la poche. C'est pour ça qu'il fait rien pour nous et qu'il ne nous regarde pas. Non, mais même pas, il nous regarde, il nous méprise, Jean-Claude. Il méprise les gens de sa ville. À part les grands gens, mais sinon, les ouvriers de sa ville, il les méprise. Malheureusement, c'est les gens comme nous qui font travailler le pays, qui font vivre le pays, mais ça, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent compte qu'il n'y aura plus d'usines et plus de travail en France.
Le préfet, on a été reçu par le préfet, mais toujours des promesses, mais rien de concret. J'ai que 46 ans et je vais trouver du travail où, moi, à mon âge? J'ai 26 ans d'ancienneté et j'ai commencé là-dedans tout jeune, à 20 ans. Maintenant, je vais me retrouver au chômage pour la première fois et je n'invente pas la mode. Il y en a beaucoup qui sont passés par là avant moi, mais voilà, la seule chose qui me reste, c'est de défendre mon emploi, comme tous les camarades, et d'en tirer le meilleur parti, quoi. Je sais pas... Voilà. Après, ils nous proposent des réclassements, mais faut pas rêver. Ils veulent vous envoyer dans d'autres sites d'ici un an ou deux, ils vont passer comme nous, ça va fermer. C'est tout délocalisé à l'étranger. Alors donc pour moi, tous ces trucs qu'ils ont dit là, reclassement, c'est tout du pipeau, j'y crois pas. Voilà. Bon, il y a certains camarades qui veulent suivre le groupe en France. D'autres qui, bon, sûrement il va avoir un plan social, un plan de pré-retraite. Et bien le reste,
Charlie,
à la NPE, il va avoir un drôle de ménage dans toute la France entière. Quand ça fait 33 ans qu'on est à Marseille, je suis arrivé ici gamin, j'avais 14 ans, j'en ai 46, je vois pas ce que je vais faire à Dieppe. Surtout qu'à Dieppe, ils sont en difficulté aussi. Ils vont fermer 4 mois pour moderniser l'usine. Salut. Pour moderniser l'usine, tout ça et tout. Mais même les gens là-bas, ils ont du souci à se faire parce qu'ils disent est-ce que la production va revenir? Donc eux aussi, ils ne sont pas certains. Alors vous voyez, c'est vrai, maintenant ça a tout changé. C'est vrai que maintenant, avec ce qui nous arrive, bien sûr, on rentre à l'usine plus difficile qu'avant, quoi. Je ne rentrais plus avec gaieté de cœur. Avant, on rentrait plus volontiers travailler. Mais maintenant, on rentre. Moi, je vous le dis franchement, personnellement, je rentre par dégoût. Comme si vous allez dans un cimetière, et bien c'est exactement pareil. Voilà, je suis honnête. Pourtant, je ne crache pas dans la soupe. Nestlé m'a donné à manger pendant 26 ans. Ben, il y a une fin à tout. Ben, c'est malheureux, c'est comme ça. Ben oui, 26 ans de boulot. Le remerciement, ben, ils ferment ici, ils vont ouvrir ailleurs. Ça, c'est le remerciement de Nestlé France.
Et hier, à ce passe à la réforme, à Vienne des Grèmes, Pernatuda, qu'à des siestes bastidines les formes, à Stiratrèche et siestes sourdas, les couches bien et sud-ouest et terre, fin son rabat et perla tu allier, il va se garnir sa bouche allier, mon bel agné, ou vas à la guerre. Paga l'imposte de ma misère. Tien qu'est la lei, affuselei, que creste mai tant de famille. La boulissie, nueste buen rei, si suivie pu dédié marcio. Est-ce pas la lei, est une horreur, est une décret de la terre. Es lo couteau de la tripière au coin des mères.
Merci à tous. Merci à Jean-Pierre Riboud, Philippe Créneau, Michel Rossi, Patrick Candela. Merci à Chantal, Roger, José, Marcel et Jean-François. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Ce soir, sur Arte, c'est une nouvelle de Pascal Opascariello. Voilà ce qu'elle va faire ce soir, Pascal. Elle va regarder Bush & Co. Sur Arte, et notamment le documentaire de Stéphanie Slevka, Bush en mission divine. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de la base où j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Yann Chouquet, Pascal Opascariello et Christophe Imbert, c'est la fine équipe de la base où j'y suis. Le répondeur, le numéro, c'est le 0156 40 37 37, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour là-bas si j'y suis. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari, mais auparavant, la réclame.
Je l'aurais déjà faite, la table ronde. Je ne l'ai pas faite parce que c'est pour des raisons de juridiques. Parce qu'il ne fallait pas troubler la procédure. On devait la faire aujourd'hui, la table ronde. S'il n'y avait pas eu la foi, on l'a fait. Je n'ai pas beaucoup de coups quand on n'a pas eu la table ronde. On avait prévu aujourd'hui. Nestlé, table ronde. Je l'aurais déjà faite, la table ronde. Cette table ronde, je vous dis, on a trouvé en cours après la date depuis deux semaines. Nestlé. Nestlé, table ronde. On va trouver une date, et rapidement.
Les salariés de Saint-Denis n'auront plus que vous pouvez, il faut leur
donner
une réponse définitive.
D'accord. Pour que les gens. Eh bien, écoutez, lundi matin, je vous donne une date. Je vais travailler sur le calendrier pendant le week-end. Nestlé, je ne l'ai pas faite parce que c'est pour des raisons de table ronde.